Des odeurs, des couleurs, un paysage réel et fantasmé, des lampadaires qui chantent un blues interminable, des hommes, des femmes avec des espoirs et des désespoirs, des regards, l'envie de vivre et l'envie de partir. Comment on raconte un pays?
De vive voix.
Pascal Paradou.
De son premier roman au dernier en date, Les Villages de Dieu, en 2020, Emily Prophète n'a eu de cesse de raconter son pays, Haïti, un monde loin du monde, comme elle l'écrit dans le Testament des Solitudes. Bonjour Emily Prophète.
Bonjour Pascal Paradou.
Ce roman est le premier écrit, voilà 15 ans, qui aujourd'hui est réédité. Est-ce que c'est un coup marketing de l'éditeur ou c'était aussi une envie de votre part, un peu de remonter le temps?
En fait, ce n'est pas un coup marketing de l'éditeur. Moi, je pense que ce roman est revenu dans l'actualité malgré lui, malgré moi, puisqu'en 2019, à la fin de l'année 2019, l'éditeur a reçu une demande de Amazon Crossing, qui est la maison d'édition d'Amazon, pour traduire en anglais le Testament des Solitudes, publié en 2007, qui avait eu une très belle vie, un très bel accueil il y a une quinzaine d'années, et dont l'éditeur, en l'occurrence Mémoire d'Encrier, avait fait deux éditions déjà. Et puis il s'est dit, puisqu'il est autant demandé et maintenant sur le marché anglophone, pourquoi ne pas proposer une troisième édition? Et cette édition-là, elle est aussi dans la rentrée littéraire française, puisque le livre avait été deux fois imprimé et vendu au Canada et en Haïti, évidemment, présenté en France dans le festival Étonnant Voyageur. Là, maintenant, il est sorti officiellement en France, disponible dans beaucoup de librairies.
Et alors, vous le relisez comment, ce livre écrit il y a 15 ans?
Avec beaucoup d'émotion. C'est un livre qui m'émeut beaucoup et c'est peut-être pour cela que je n'en ai plus écrit de pareil. Il y en a eu d'autres, mais avec un petit peu plus de distance, moins de poésie peut-être.
Vous vous souvenez de ce qui vous a amené à l'écrire? Est-ce que c'était l'envie de raconter le pays, votre pays, Haïti?
En fait, c'était pour régler un compte avec moi-même, parce qu'un matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses à côté desquelles j'étais passée, beaucoup de choses que j'avais vécues sans vraiment les comprendre. Beaucoup de gens que j'avais vus partir, mourir, beaucoup de voix. Et là, j'ai eu comme un éveil, il fallait que je raconte ces personnes, que je raconte cette vie qui n'avait pas disparu. Il y a parmi les gens dont je parle ou desquels je crois parler existent toujours pour la plupart, même s'il y en a énormément qui sont décédés, la vie d'exilés, la misère, l'émigration. Donc il fallait que je parle de tout cela, régler ce compte pour commencer à être l'écrivaine que je voulais être. Et ça a été aussi comme une transition entre la poétesse que j'étais, je n'étais que cela, je n'écrivais que de la poésie, vers le récit.
Un monde loin du monde, un monde d'où il fallait partir pour vivre, écrivez-vous dans le Testament des Solitudes, donc c'était il y a 15 ans. Est-ce que ça a changé ?
Pas beaucoup. Les lieux d'exil ont changé. Maintenant, les Haïtiens vont beaucoup moins aux États-Unis. Ils partent en Amérique du Sud, au Chili, au Brésil. Et souvent, ils font des voyages périlleux de ces pays-là à pied jusqu'à la frontière américaine. Et nous avons vu des images il y a peut-être 18 mois d'Haïtiens qui étaient attrapés au lasso par la police américaine, la police montée. Donc voilà, ils cherchent parce que vraiment, c'est pour mieux habiter leur pays, il faut qu'ils partent.
C'est un paradoxe quand même.
C'est un paradoxe.
Un sacré paradoxe depuis des générations.
Depuis des générations, ils partent déjà pour sauver leur propre vie, pour échapper à la misère, mais aussi pour aider ceux qui restent au pays.
Alors vous parlez aussi très joliment dans ce roman, Emily Prophète, des lampadaires qui chantent le blues donc dans les rues de Port-au-Prince. Mais aujourd'hui, ils chantent quoi? Ces lampadaires-là qui sont même plus éclairé, parce qu'il y a des problèmes d'électricité dans le pays.
Il y a toutes sortes de problèmes. Et les Haïtiens, les Haïtiennes, moi j'ai toujours habité à Haïti. Et des fois, on est tellement confronté à des situations paradoxales, des situations difficiles, qu'on se dit, ça ne peut pas être pire. Sauf que quelques mois plus tard, quelques années plus tard, on se rend compte que c'est bien pire. Du début des années 2000 à aujourd'hui, c'est vrai que la situation a vraiment beaucoup empiré.
Qu'est-ce qui a changé en 15 ans ? Aujourd'hui, la jeune autrice, la primo-romancière Émilie Prophète est devenue ministre de la Culture et de la Communication. Ça, c'est un changement quand même.
C'est un très, très grand changement, un énorme changement. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, le changement majeur que nous avons connu dans notre pays date de 2010 avec cet énorme tremblement de terre qui a tout remis en question, qui a fait tomber au sens propre comme au figuré les institutions, qui a vu des changements radicaux, de la disparition de beaucoup de personnes, des ressources importantes pour le pays, des départs massifs, une crise politique interminable. En fait, c'est une crise politique en fait qui dure depuis la chute des Duvaliers en 1986, et cette crise politique a beaucoup empiré. Oui.
Alors, vous êtes ministre de la Culture, je crois que cette nomination a surpris pas mal d'Haïtiens, beaucoup de vos lecteurs aussi. Que peut faire un écrivain dans un pays où justement il n'y a plus du tout d'institution, il n'y a plus de président, il n'y a plus de parlement, le quotidien est presque un enfer, mais je ne vais pas parler à votre place, mais enfin, on n'entend parler que de pillage, de violence ou d'enlèvement. Que peut faire un écrivain dans un tel contexte ? Est-ce que les mots ont un pouvoir en Haïti ?
Je répondrai par une question, mais sans vous la poser. Faut-il tout abandonner ? Alors qu'on est là. Et quand la proposition m'a été faite, j'ai pris le temps de réfléchir et puis je me suis dit, il y a encore moyen d'apporter une parole. D'apporter une parole parce que de cette parole-là, nous en avons besoin en Haïti. J'ai pris le temps de voir avec beaucoup de gens du secteur, faut-il tout laisser tomber ? Faut-il partir soi-même ou être totalement indifférente à ce qui se passe, à cet état de catastrophe permanente ? Non. Donc j'avais envie d'inventer un discours, de rallier des gens et de leur dire il y a encore des choses qui transcendent nos différences, qui transcendent la violence.
Et c'est quoi ?
La littérature, les arts et beaucoup de choses qui nous rassemblent comme la guerre de l'indépendance haïtienne, toutes ces belles figures haïtiennes à travers le monde, Jacques-Stéphane Alexis, ces jeunes qui se retrouvent dans des associations et qui, malgré tout, essayent de faire vivre la culture, le patrimoine haïtien qui est quand même important, la gestion des risques et des désastres qu'il nous faut faire, des discours sur les pères fondateurs, les mères fondatrices. Donc il y a encore énormément de choses à dire et en temps de crise, justement, il faut investir dans la culture, il faut parler de la culture, il faut donner de la place à d'autres discours et à des envies de vivre.
Une femme dans un aéroport se souvient des femmes qui l'ont précédée par petites touches, des reflets, des souvenirs. C'est un roman kaléidoscopique entre autobiographie familiale et portrait d'un pays. On va raconter ce roman, Les Testaments des Solitudes, d'Emily Prophète. Mais il faut d'abord lire le tweet de Donald Trump, version Alexia Hachka.
Donald a envoyé un tweet. Le monde entier a dit what the fuck, what is it? Il avait mis tout plein d'émoticônes en cœur. Une photo de lui avec un collier de fleurs, arborant un sourire éclatant de bienveillance, comme l'homme qui retrouve la douceur de l'enfance. Quand il arrachait les pattes des fourmis, on pouvait lire écrit sous la photographie: je vous aime et je sais, j'ai déconné, sorry. La vie a fait de moi un homme sans merci, par mon tempérament un peu trop soupe au lait, arrogant, méprisant les perdants et les laids. Je vous aime et je sais, j'ai déconné, sorry, mais je vais tout changer à partir d'aujourd'hui. Un message de paix entre les hommes frères, retrouver les valeurs du siècle des Lumières. Je vous aime.
To answer.
J'ai trop négligé la philosophie de nos pères fondateurs. J'ai trop montré les dents, pas assez le cœur. Mon pouvoir est si grand qu'en un décret planétaire, j'aurais pu rendre heureux tous les damnés de la Terre. Grâce aux stéroïdes que m'a prescrit le docteur, j'ai le corps détendu, les chakras bien ouverts. Je suis allé tout seul m'acheter des fruits. J'ai souri à mon voisin comme si c'était un ami. Je vous aime et je sais, j'ai déconné, sorry. Mais je vais tout changer à partir d'aujourd'hui. Je renonce à la loi du plus grand des phallus. J'héberge les migrants dans mes hôtels de luxe. Je vous aime, je sais, j'ai déconné, sorry. Je vais tout changer à partir d'aujourd'hui. Un message de paix entre les hommes frères. Retrouver les valeurs du siècle des Lumières. Je vous aime.
Le tweet, titre d'Alexis HK, à retrouver dans son nouvel album Bobo Playground. Alors, à propos de Trump, il faut préciser, Amy Prophète, que vous êtes ici à Paris pour accompagner donc la sortie de la réédition de votre premier roman, Le Testament des Solitudes, mais aussi pour participer au festival America, qui réunit tous les grands auteurs du continent. C'est ce week-end à Vincennes, près de Paris. Est-ce que vous vous sentez américaine ?
Non, pas du tout. Je me sens haïtienne, mais je reconnais que je vis dans le continent américain, qu'Haïti fait partie du continent américain. Il y a beaucoup de liens entre Haïti et les États-Unis. Il y a une diaspora importante qui aide les parents restés en Haïti. Donc, il y a énormément de liens, mais je ne me suis jamais sentie qu'haïtienne dans ma vie.
Par votre présence dans ce festival, vous rappelez en tout cas que le continent américain n'est pas exclusivement anglophone.
Le continent américain n'est pas anglophone et hier, quelqu'un a porté le discours de l'organisation du festival et il a rappelé que le continent américain, c'était le français, l'espagnol, l'anglais. Et après, je lui ai dit, mais vous avez oublié le créole parce que Haïti, c'est quand même une importante communauté, voilà, le plus grand pays francophone et créolophone du monde, si ça se trouve. Donc, et voilà, ce continent regroupe beaucoup de langues, dont le créole, et on l'oublie quelquefois, le créole qui fait partie des langues reconnues, par exemple, en Floride.
Mais le français est votre langue d'écriture ?
Le français...
Exclusivement.
Non, j'écris en créole aussi et comme je publie au Québec, à Montréal principalement et quelquefois en France, donc en français, mais j'écris en créole aussi et je suis une ancienne de l'école normale supérieure, donc j'ai été formée aussi pour être professeure de créole.
Alors sur ce rapport au français, je vous propose d'écouter un autre écrivain haïtien, Danny Laferrière, donc écrivain haïtien et académicien français.
J'ai tout écrit en français parce que j'ai appris le français et que écrire précisément la langue écrite en Haïti, c'est le français. Maintenant, de plus en plus, depuis peut-être une trentaine ou une quarantaine d'années, le créole écrit est entré même dans les écoles. Je vois sur Internet, beaucoup de gens s'expriment à l'écrit en créole. Mais de mon temps, je n'étais pas cela. Je vois ça avec beaucoup de plaisir. Parce qu'il y a quelque chose de direct et puis c'est une chose importante que le créole soit passé à l'écrit. C'était toujours, il y a même un dictionnaire français-créole, il y a une grammaire naturellement, sinon on n'aurait pas pu l'écrire, on n'aurait pas pu se comprendre, mais ce n'était pas, disons, courant. Et maintenant c'est très courant, c'est tout à fait naturel.
Emily Prophète, les choses changent et plutôt dans le bon sens, en faveur de la diversité linguistique dans ce cas-là.
En faveur de la diversité linguistique et aussi parce que le français, c'est une langue nationale en Haïti, c'est notre langue aussi, mais ça a été pendant plus de 200 ans une langue de domination parce que la langue parlée par toutes et par tous est le créole. Donc depuis une trentaine d'années, comme le dit Daniel Laferrière, le créole a fait une montée en puissance. Et c'est de manière décomplexée que les gens écrivent en créole, s'expriment en créole.
Alors dans ce premier roman, Le Testament des Solitudes, il n'y a pas de mot créole, mais j'ai l'impression quand même que vos phrases sont baignées dans cette culture, dans cette sonorité du créole.
Forcément, forcément, et c'est ce qui fait la diversité de la langue française, c'est-à-dire toutes ces cultures, tous ces gens à travers le monde qui s'expriment en français, s'expriment d'une manière spécifique, tout en étant dans le français. Ce qui fait entrer beaucoup de mots, beaucoup d'expressions, et ça permet aussi de comprendre de quel lieu parlent ceux qui écrivent en français.
Alors, on va vous écouter lire un extrait de ce roman, mais on va peut-être quand même raconter un tout petit peu, parce que je réalise qu'on parle de politique, on parle d'Haïti, on parle de culture et de langue, mais on a très peu parlé de ce testament des solitudes. Une femme dans un aéroport, à Miami, on est un mois après le 11 septembre 2001, elle rentre au pays et finalement elle essaye de comprendre dans cette position d'attente ce qu'est et son histoire familiale et son identité.
Oui.
On en dit un peu plus.
On en dit un peu plus, oui.
Donc elle raconte trois femmes. Est-ce que cette femme, c'est vous d'ailleurs ?
Non, c'est la narratrice, ce n'est pas moi. Et voilà, cette narratrice, elle raconte, elle a des réminiscences, elle va dans la province bleue, qui est une petite province du sud du pays, où sont nées ces trois femmes qui ont laissé cette province, ces femmes qui sont nées après la guerre, dans un pays très pauvre, et elles sont des filles à une époque où ce n'était pas évident, parce que les filles, elles faisaient le ménage, elles étaient astreintes à des tâches ménagères, donc elles entrent dans la capitale, elles essayent d'y vivre, c'est très très difficile parce que ça a toujours été extrêmement compliqué pour les Haïtiennes et les Haïtiens, ceux qui sont très pauvres, et ce rêve absolu, même pour ceux qui sont bien dans leur pays, de partir, d'aller voir ailleurs, d'aller travailler, d'aider ceux qui sont restés, et ces transferts que les gens envoient, et des fois ils envoient $50, ils vous disent, donnez $5 à telle voisine parce qu'ils savent que telle voisine a de la difficulté à se nourrir pour payer l'écolage, pour payer le loyer. Donc c'est la vie de toutes ces personnes qui ne sont pas des femmes exclusivement. Ce sont des hommes, des Haïtiennes, des Haïtiens, voilà, des gens un petit peu perdus qui ont un voyage de retard et qui parlent, qui s'expriment, qui regardent le pays, qui s'étonnent, qui regrettent et qui finissent par mourir de cet éloignement.
Mais ces trois femmes évoquées par la narratrice, ce sont sa mère et ses tantes.
Voilà, oui.
Il y a donc Christy, Odile.
Odile, oui.
Et votre mère. Oui. Je ne sais plus dans quel ordre alphabétique, et c'est dans quel alphabétique chronologique plutôt. Et c'est une famille un peu dispersée. Il y a des éléments autobiographiques dans cette histoire-là ou pas du tout, M. les prophètes ?
Forcément, oui, il y a quelques éléments autobiographiques, et dans la mesure où tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, toutes ces choses finissent par faire partie de nos vies, de nous-mêmes. Et quand on raconte l'autre, on se raconte aussi.
Mais la beauté du roman, c'est pas tant l'histoire, ou c'est pas seulement l'histoire de ces femmes, c'est la façon dont vous menez ce récit. Parce que c'est pas du tout un récit chronologique, c'est pas du tout biographique, où vous raconteriez une histoire avec un début, un milieu, une fin. C'est vraiment un récit en lambeaux, en éclats. Et d'ailleurs, le miroir est un élément important dans le récit, parce que parfois, il ne reflète rien.
Voilà, il ne reflète rien. Et oui, ce récit est construit, il est dispersé, on va dire. Et c'était volontaire. C'est des regards, voilà, et une envie de tout ramasser à la fois pour faire comprendre ces gens dans le quartier, ces déménagements, toutes ces petites choses qui font partie de la vie des classes populaires. Voilà, donner à petite dose pour avoir un grand kaléidoscope pour faire comprendre voilà, la souffrance, mais quelquefois aussi le bonheur et l'envie.
Par petite gorgée.
Voilà.
Disant cela, je fais référence au café, parce que l'odeur du café est un lien qui traverse tout le livre, c'est vraiment un marqueur, et c'est aussi un marqueur de votre œuvre, car tous vos personnages, dans tous vos romans, boivent du café.
Oui, le café a joué un rôle important dans la vie de ma famille maternelle. Mes grands-parents étaient cultivateurs et ils étaient dans l'exportation du café. C'est-à-dire, le tout petit bébé, quand il arrivait au monde, il goûtait au café. Moi, j'ai commencé à boire du café très, très, très tôt. Et quand mon jeune frère, il est né, il avait peut-être 2 jours, j'ai vu ma grand-mère lui mettre des gouttes de café dans la bouche. Comme quoi, il faut être reconnaissant vis-à-vis vis-à-vis du café qui vous permet d'exister. Voilà, c'est l'argent de ce café-là, c'est la culture de ce café qui fait que vous vivez, que vous pouvez manger et espérer aller à l'école.
Vous définissez comme l'héritière universelle de l'odeur du café. C'est pas rien.
Je pense à Dany Laferrière, voilà, qui a écrit l'odeur du café, justement.
Et c'est une odeur qui fait en fait votre identité, à la fois de femme et d'autrice.
Complètement. Il y a beaucoup de café dans mon quotidien et c'est presque par principe que j'avale du café. C'est mon lien avec mon passé, avec mon présent. Ça me permet de réfléchir et je pense à toutes ces femmes qui nous ont quittés. Je pense aux grands-parents. Je pense à ce pays qui change tellement et malgré nous, parce que ce ne sont pas toujours les changements que l'on souhaite. Je pense à la province bleue qui n'est plus aussi bleue que ça.
Émilie, on lit, car le café va refroidir sinon. On lit, ou plutôt vous lisez, extrait du Testament des Solitudes, une femme dans un aéroport et elle se souvient d'Odile.
La maison d'Odile était enclavée. Il paraît qu'avant, elle habitait un quartier qui s'appelait Cour du Cimetière. Et c'est là qu'elle avait conçu et perdu son premier enfant. J'ai encore dans la tête cette maison coincée, sa terrasse, ses deux pièces, le son de sa voix, des portes ouvertes sur rien. Elle ne s'était rien approprié ici, Odile. Ni chemin, ni voie, ni quartier, ni maison, ni famille. Elle n'a manqué à personne quand elle est partie. Elle n'avait jamais été là. Sa mort était une nouvelle banale, pour moi en tout cas. La grande absente avait simplement confirmé qu'elle ne reviendrait plus. On a le temps de voir passer son histoire, assise sur une chaise d'aéroport. Toute cette accumulation d'images et de sentiments, ces ratages, cette longue danse autour de rien. Pas de témoin. Une histoire sans témoin ne vaut rien, ou presque. Le café est froid. Je vais prendre le temps de le changer, longer encore une fois cette allée. Les murs ont l'air d'être loin. Ici, je me sens petite. Tout est grand dans ce pays. Cela m'absorbe. J'imagine déjà le retour et ma réintégration dans ces espaces réduits, ces rues sales et encombrées, ma nervosité au débarquement, impuissante face à cette vague de gens, à ce vacarme continu, à l'impression que personne n'aime personne. Tous ces gens et leur rêve de partir, d'atterrir un jour sur cette piste arrosée par une pluie fine d'octobre.
Ce désir de partir, Émilie Prophète, vous l'avez eu, vous, en fait, avec la littérature.
Avec la littérature, pour savoir qui j'étais, où je vivais, et interpréter ces espaces, donner de la voix aussi à des femmes, des hommes.
Faire hurler les silences, dites-vous. C'est plus encore que donner de la voix.
C'est vrai, faire hurler les silences, parce qu'il y a beaucoup de silences, il y a beaucoup de gens qui se taisent depuis toujours. Mon pays, c'est un pays, dès le départ, dès 1804, fondé sur des inégalités. Il y a beaucoup d'inégalités, il y a des gens qui ne parlent pas, il y a des gens qu'on n'entend pas et qui ne parleront jamais, et pourtant ces gens font tourner le quotidien. Voilà, il faut à chaque fois que je les fasse parler, que je les sorte de leur silence avec fracas, et je suis très contente que leur voix arrive à atteindre beaucoup de gens à travers la francophonie et maintenant l'anglophonie, et que ça me permette aujourd'hui d'être à votre micro,
oui,
à RFI.
Merci. Mais c'est vrai que vos personnages n'ont pas d'histoire au sens propre, ils n'ont pas de destin au sens propre, ce sont des vies communes. Des vies quotidiennes, des vies minuscules, comme
dirait
notre écrivain.
Pierre Michon, voilà.
Exactement.
Voilà, ce sont des vies minuscules. C'est exactement cela et c'est un livre que j'aime beaucoup de Pierre Michon.
Et tous, vous l'avez dit, ont envie de partir. Et la question de l'exil, d'ailleurs, traverse toute la littérature haïtienne et la société haïtienne. On écoutait tout à l'heure le grand Dany Laferrière, mais il y a aussi la jeune génération des écrivains haïtiens qui parlent, eux aussi, de leur désir d'ailleurs. Jean d'Amérique.
Dans ces conditions de vie, on peut très vite avoir l'impression qu'on n'a même plus le droit de rêver. Et ça, c'est hyper grave parce que le rêve, c'est peut-être le saut ultime qu'il reste à l'être humain pour exister. Je suis arrivé à Port-au-Prince à 11 ans, après avoir grandi à la campagne, et cette rencontre avec cette ville était assez brutale. C'est-à-dire, la ville efface beaucoup de choses chez nous parce que c'est très bouillonnant, c'est très énergique. Et Port-au-Prince est une ville assez désaccordée, bruyante. Et moi, j'ai aussi tout de suite vécu dans des quartiers populaires où il y avait une violence mais immédiate que je côtoyais. Et c'est assez difficile de sortir de ce lieu-là parce qu'on n'a pas d'exemple qui nous amène vers la lumière, on va dire.
Jean d'Amérique, auteur de « Soleil à coudre », son roman, et de « Opéra poussière », pièce pour laquelle il a eu le prix RFI Théâtre 2021. Vous lui répondez quoi, Jean d'Amérique ?
J'entends ce qu'il dit et je pense qu'il a raison. C'est vrai que c'est une ville qui vous bouffe au sens propre du terme. Moi, je n'ai pas vécu peut-être dans les mêmes quartiers que Jean d'Amérique, mais j'ai regardé de près. Je sais ce qu'il dit et cette impression au quotidien, et pas que pour ceux qui vivent dans des quartiers difficiles, qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir, qu'il y a quelque chose qui va arriver, parce qu'il y a toujours quelque chose de grave. À chaque pas, on est confronté à des situations compliquées, on voit les autres aussi et on souffre dans sa chair, il y a tous les sens qui sont en éveil et qui vous disent, écoutez, il faut vous sauver, il faut vous protéger, il faut peut-être essayer de faire quelque chose. Donc c'est un combat, vraiment, c'est un corps à corps très très difficile.
Mais aller vers la lumière, c'est une ambition absolument magnifique et si difficile en Haïti, qui est pour autant, et là je m'adresse aussi à la ministre de la Culture, toujours un pays d'écrivains.
C'est toujours un pays d'écrivains, c'est toujours un pays de créateurs.
C'est mystérieux quand même, cela.
Oui et non, oui et non. Moi, je pense que quand on est confronté à un certain nombre de situations, ou bien on essaye de transcender, ou bien on tombe. Et c'est cet affrontement avec cette réalité extrêmement difficile probablement qui fait émerger autant de personnes avec des réponses. Parce que la création est une réponse face à un réel. Et à la fois dans les arts plastiques, la littérature, le cinéma, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, pas que des jeunes, je n'aime pas le terme jeunes, qui essayent de trouver des réponses. Voilà, qui font des propositions pour ne pas mourir et pour aider les autres à continuer de vivre.
Dans votre roman, et ce sera peut-être la dernière phrase que je citerai de ce roman, vous dites « Nos regards n'ont jamais envie de se suicider ».
Non, jamais. Jamais. Et c'est de ce combat-là que je parle, la force de regarder, la force de regarder, de passer au travers. Jean d'Amérique, Mackenzie Orcel, ce sont des miracles. Ce sont des jeunes qui ont su transformer cette réalité, c'est-à-dire ils envoient des messages, des bouffées d'espoir à notre pays, à notre jeunesse.
Et il y en a encore derrière.
Il y en a
des hommes et des femmes, d'ailleurs.
Des hommes et des femmes. Il y en a plein derrière qui sont en train de dire, qui sont en train de se colter à ce réel et d'inventer la vie, d'inventer une vie.
Merci, Émilie Prophète. Le Testament des Solitudes est édité chez Mémoire d'Encrier. Et vous êtes l'invité du Festival América qui se tient donc à Vincennes jusqu'au 25 septembre. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. Émission à réécouter sur RFI et sur Facebook. Et on se retrouve la semaine prochaine au Festival Les Zébrures d'automne à Limoges.